Bonjour tout le monde. Ce matin, j'aimerais vous parler d'un sujet qui nous concerne tous. C'est un sujet également que nous abordons rarement ouvertement. Un sujet qui concerne la vie d'église. Nous allons parler des relations dans le ministère. Le ministère, ce n'est pas seulement les prédications le dimanche. Des chants joyeux, des réunions bien organisées, des projets qui avancent ou pas. Le ministère, c'est avant tout des relations humaines. Et les relations humaines, vous le savez très bien, c'est rarement simple. En public, on n'en parle presque jamais, mais en privé, dans les couloirs, après les réunions, tard le soir, dans les messages, là on en parle. On parle des tensions, des incompréhensions, des malentendus, des frustrations, des blessures, des déceptions, parfois même des rivalités. Ça s'appelle des commérages. Ce péché discret, jamais assumé, mais profondément destructeur. On va le déguiser en partage de fardeau, demande de prière, simple information. Mais en réalité, ça ronge la communauté. Si pour nous, ça reste tabou, la Bible, elle, ne cache pas ses réalités. Elle ne maquille pas non plus, elle ne minimise pas. Vous le savez très bien, la Bible n'est pas un livre naïf. C'est pas un Disney où tout finit bien à la fin, avec un feu d'artifice. La Bible ne vend pas une version idéalisée de la vie chrétienne. Elle nous montre la réalité telle qu'elle est. Mais toujours, et c'est ça qui est important, à la lumière de la grâce. C'est exactement ce que nous voyons dans le passage d'aujourd'hui. Pourtant, malheureusement, c'est le genre de passage qu'on peut lire beaucoup trop rapidement. On va le considérer comme une simple parenthèse administrative, un rapport de mission, une liste de noms, un passage pratique mais pas trop théologique. Et pourtant, on va le voir, ce passage est d'une richesse incroyable. Paul, dans notre passage d'aujourd'hui, ne parle pas de grandes doctrines abstraites, ne développe pas non plus une argumentation complexe, il va nous parler de personnes, de relations, de collaborations, de services, de souffrances, de fidélité. Beaucoup, malheureusement, pensent que la théologie ne sert à rien, qu'elle serait réservée seulement au débat d'experts, peut-être aux anciens, dans la salle du fond. C'est une erreur. Paul nous montre exactement l'inverse. Une doctrine qui ne change pas la vie n'a jamais réellement été comprise. Dans ce verset, dans ce passage, la théologie est vivante. Elle avance sur deux jambes, Épaphrodite et Timothée. Deux hommes ordinaires, deux vies façonnées par la grâce, par l'évangile, deux portraits vivants de ce que produit la vie de service, la vie de grâce en nous. On le répète à chaque fois, mais il ne faut pas oublier le contexte. Paul écrit cette lettre depuis une prison. Il est privé de liberté, il ne sait pas encore s'il est libéré ou exécuté, et pourtant, qu'est-ce qu'il fait? Il pense aux autres. Il pense aux Philippiens, il pense à Timothée, il pense à Épaphrodite, il pense à l'église de Philippe. Il n'est pas centré sur lui-même. Il n'est pas absorbé par sa souffrance. Ses problèmes ne sont pas le centre. Il est tourné vers les autres. Et déjà ici, nous voyons quelque chose d'essentiel. Le ministère authentique nous détourne de nous-mêmes pour nous tourner vers le Christ et vers les autres. Dans ce texte, on va le voir, Paul nous présente deux hommes, Timothée et Épaphrodite. Ce ne sont pas des héros spirituels. Ce ne sont pas non plus des figures idéalisées. Ce ne sont pas des hommes parfaits. Timothée est jeune, parfois timide, souvent fragile. Épaphrodite, lui, on va le voir, tombe gravement malade au point de frôler la mort. Et pourtant, Paul parle d'eux avec une profonde admiration. Pourquoi? Parce qu'ils incarnent quelque chose de précieux. Ils incarnent ce que signifie servir Christ dans la vérité. Ce serait facile de dire, ce texte concerne les pasteurs, les missionnaires, les responsables. Mais là aussi, ce serait une erreur. Philippiens 2, 19 à 30, le passage d'aujourd'hui, ne parle pas seulement de fonction, il nous parle surtout de cœur, de motivation, de fidélité, de sacrifice et de relation. Et cela concerne chaque disciple de Jésus, que tu serves officiellement ou non, que tu sois membre ou pas, que tu sois en première ligne ou en arrière-plan, visible ou discret, dès que tu suis Christ, dès que tu fais partie de son Église, tu es concerné par ce texte. Je vous propose un fil conducteur, quatre images, quatre réalités. Le ministère est un trésor. Le ministère est un miroir. Le ministère est un appel. Le ministère est un modèle. Ces quatre images vont nous accompagner tout au long du texte. Elles vont nous aider à comprendre ce que Dieu fait dans la vie de ceux qui servent, ce qu'il veut faire dans notre vie. Pourquoi ce message est important? Nous vivons dans une époque où le ministère est souvent mal compris, parfois idéalisé, parfois au contraire dévalorisé. Il peut être aussi réduit à des compétences ou des méthodes. Mais Paul nous rappelle que c'est d'abord une question de cœur. Et ce cœur, Dieu le façonne à travers des relations parfois compliquées, des situations inconfortables, des appels exigeants, des exemples concrets. Dieu ne cherche pas des serviteurs impressionnants. Il cherche avant tout des serviteurs fidèles. Si tu peux afficher le texte, je vais le lire. Je vous invite à ne pas lire ce texte comme un simple rapport de mission. Lisez-le comme un miroir, comme un appel. Car derrière Timothée et Epaphrodite, Dieu parle aussi de toi, de moi, de chacun de nous. J'espère dans le Seigneur, Jésus, vous envoyez bientôt Timothée afin d'être encouragé moi-même en apprenant ce qui vous concerne. Car je n'ai personne ici qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. J'espère donc vous l'envoyer dès que j'apercevrai l'issue de l'état où je suis. Et j'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi, j'irai bientôt. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Epaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec d'autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honoré de tels hommes. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il était près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Et maintenant, voyons la première grande vérité que Paul nous révèle. Le ministère est un trésor. Si nous voulons comprendre ce que Paul fait dans ce passage, nous devons commencer ici. Le ministère est un trésor. Pas une charge, pas une contrainte. Un trésor. Et ce mot n'est pas choisi au hasard. 2 Timothée 1,14. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Quand Paul parle du ministère confié à Timothée, il utilise un terme très fort en grec. Ce mot désigne un dépôt précieux, un bien de grande valeur, confié à quelqu'un pour être gardé avec soin. Dans le monde antique, on utilisait ce mot pour parler d'un héritage, d'un coffre, d'un objet rare, quelque chose qu'on ne confiait qu'à une personne de confiance. Paul est en train de dire à Timothée, ce que Dieu t'a confié n'est pas banal, ce n'est pas ordinaire, c'est précieux. Et ce trésor, bien sûr, dans le contexte, c'est l'Évangile. Mais dans Philippiens 2, Paul va élargir notre compréhension. Ce trésor inclut les personnes, parce que l'Évangile inclut les personnes. Timothée est un trésor, Épaphrodite est un trésor. L'église de Philippe est un trésor. Et c'est là que les choses deviennent concrètes. Et parfois, inconfortables. Nous portons ce trésor dans des vases d'argile. Vase d'argile désigne quelque chose de fragile, de cassable, de fissurable. Pas un coffre-fort. Pas une boîte blindée. Un simple pot en papier. Et Paul dit, Dieu a mis son trésor là-dedans. Pour certains, ça peut paraître absurde. C'est comme mettre un diamant dans une boîte à chaussures ou un lingot dans un sac à papier. Pourquoi Dieu fait-il cela? Paul répond, afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Autrement dit, Dieu aime confier des trésors à des gens fragiles, pour que personne ne confonde le vase avec le trésor. Dieu ne choisit pas des instruments impressionnants pour mettre en valeur leur force, mais pour révéler la sienne. Quand on parle du mystère comme un trésor, on pense d'abord à la doctrine, à la prédication, à l'enseignement. C'est juste. Mais Paul va beaucoup plus loin. Il parle de relations, de collaboration, de service mutuel, de compagnonnage, pour ne pas parler d'amitié. Et c'est là que nous devons être honnêtes. Nos trésors humains sont bien plus difficiles à gérer que les trésors doctrinaux. Parce que les personnes ne sont pas des concepts. Nous avons des émotions, des limites, des blessures, des attentes, des réactions parfois imprévisibles. Tout le monde voit de quoi je parle. Et parfois, on se surprend à penser, Seigneur, tu appelles ça un trésor. Là aussi, vous voyez. Oui. Dieu voit son Église et tous ceux qui la composent, sans exception, comme un trésor. Et cela acquise un trésor. C'est un trésor parce que Dieu voit ce que nous ne voyons pas. Il voit l'œuvre de Jésus en formation, celle qui va rendre parfaite. Il voit la valeur éternelle, il voit la gloire future. Est-ce que quand vous regardez vos frères et vos sœurs, vous voyez ça? Il faut le reconnaître, c'est parce qu'ils sont aux yeux. Parfois, les trésors de Dieu nous sont utiles. Timothée est un trésor, mais il faut l'encourager. Épaphrodite est un trésor, mais il tombe gravement malade, au point de nous donner des soucis. Les Philippiens sont un trésor. Il y a des tensions dans l'église. On va voir ça dans le prochain chapitre. Vous avez peut-être connu cette situation. C'est comme quand quelqu'un vous dit, tiens, je te confie un trésor. Et là, vous vous rendez compte que c'est un enfant de 3 ans. Plein d'énergie. Court partout. Pose une question. Il ne dort jamais. Oui, c'est un trésor. Mais un trésor vivant. Exigeant. Très exigeant. Et ce que Dieu nous confie n'est jamais un fardeau. Mais une responsabilité sacrée. Le ministère n'est pas un poids à porter, mais un trésor à protéger. C'est ce que dit Paul à Timothée. Garde le bon dépôt. Le verbe signifie garder, surveiller, protéger comme un soldat garde une forteresse. Autrement dit, le trésor ne se garde pas seul. Parce qu'une forteresse ne se garde pas seul. Ça demande de la vigilance, de la prière, de la patience, de la douceur, surtout de la persévérance. Mais Paul ajoute, par-dessus tout, par le Saint-Esprit qui est en nous. Parce que sans le Saint-Esprit, on garde rien. Au contraire, on casse tout, on abîme tout, on laisse les portes ouvertes. Imaginez un coffre fort, ultra sécurisé, garantie inviolable. Mais si la porte reste ouverte, ce coffre ne sert à rien. Le Saint-Esprit, c'est ça, c'est la serrure, la clé, la vigilance intérieure. Sans lui, même les meilleures intentions ne suffisent pas. Dans Philippiens, Paul montre ce trésor à travers deux hommes. Timothée est un trésor parce qu'il partage le cœur de Paul. Épaphrodite est un trésor parce qu'il a risqué sa vie pour Christ. Et Paul dit aux Philippiens, verset 29, recevez-le donc dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes. Recevez-le avec joie et honorez de tels hommes. Autrement dit, reconnaissez la valeur du trésor que Dieu vous a confié. Honorez les serviteurs fidèles. Ce n'est pas flatter les hommes, et toutes leurs œuvres, aussi bonnes soient-elles. C'est reconnaître l'œuvre de Dieu en eux. Paul le dit ainsi dans sa première épître aux Corinthiens. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui t'a vu. Si tout est grâce, même notre travail, même notre fidélité, alors cette grâce change forcément notre façon de voir le ministère. Et si on voit le ministère comme un trésor, beaucoup de choses vont changer. On change notre regard, on cesse de voir seulement les difficultés et nous apprenons à voir la valeur. Nous changeons notre attitude, nous protégeons ce que Dieu nous confie. Nous prenons soin des relations, nous refusons les commérages. En gros, nous cultivons la grâce. Notre manière de prier aussi va changer. On va moins demander « Seigneur, enlève ce fardeau ». On va plus demander « Seigneur, aide-moi à garder ce trésor ». Et ce trésor que nous gardons, il faut bien comprendre, ce n'est pas le nôtre. Il vient de Dieu, il appartient à Dieu, il est retourné à Dieu. Il a juste confié à des vases d'argile pour que la gloire lui revienne entièrement. Pour conclure cette première partie, gardons en tête que le ministère est un trésor confié par Dieu, un trésor porté dans des vases d'argile, des vases fragiles, un trésor qui demande protection, un trésor qui se manifeste dans des personnes imparfaites, mais précieuses. Et si nous voulons comprendre la suite du texte, les tensions, les encouragements, les appels, les modèles, on doit commencer par se postuler. Dieu nous a confié un trésor. Et ce trésor ne reste jamais neutre. Il va révéler quelque chose. Il met en lumière ce qu'il y a dans notre cœur. C'est exactement ce que Paul va nous montrer maintenant. Le ministère n'est pas seulement un trésor, mais il est aussi un miroir. Ce miroir-là est un peu particulier, parce qu'il révèle le cœur. Vous vous souvenez peut-être de l'anneau dans le Seigneur des Anneaux. Il est fascinant, il attire, il promeut puissance et influence. Mais l'anneau ne crée pas le mal. Il révèle ce qui est déjà là. Il met à nu les désirs profonds du cœur. Chez certains, il va révéler l'orgueil. Chez d'autres, la soif de pouvoir. Chez d'autres encore, la lutte intérieure entre le bien et le mal. Et le ministère fonctionne un peu de la même manière. Non pas qu'il corrompt, contrairement à l'anneau, mais il dévoile. Il agit comme un miroir spirituel. Il montre ce que nous sommes vraiment quand personne ne regarde. Il va révéler nos motivations profondes. Au verset 21, Paul écrit quelque chose de très fort. Tous, notez bien le vocabulaire, tous cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Autrement dit, le ministère révèle si nous servons pour Christ ou pour nous. Qui peut se reconnaître dans cette maxime? On peut faire les bonnes choses, mais pour les mauvaises raisons. Quelques exemples. On peut prêcher pour être admiré. On peut servir pour être reconnu. On peut aider pour être indispensable. On peut s'investir pour être appelé. Le ministère ne crée pas ses motivations. Il va les révéler. Le ministère ne fait pas naître l'orgueil. Il montre juste celui qui était déjà là. Le cœur humain, vous connaissez cette expression, est une fabrique d'idoles. Même le ministère peut devenir une idole si Christ n'est pas au centre. Car je n'ai personne ici, après nous tous tout à l'heure, c'est personne, qui partage mes sentiments pour prendre sincèrement à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve en se consacrant au service de l'Évangile avec moi, comme un enfant avec son père. Timothée est un serviteur remarquable. Et Paul souligne quelque chose de frappant. Je n'ai personne qui partage sincèrement mes sentiments. Ici, Paul ne parle pas encore de Timothée. Il parle des autres, de ceux qui ne portent pas le même cœur, de ceux qui cherchent leurs propres intérêts. Mais c'est précisément ce contraste qui met Timothée en lumière. Parce qu'au verset 22, Paul ajoute, vous savez qu'il était mis à l'épreuve. Autrement dit, Timothée est différent, pas dire qu'il est l'exception. Lui partage réellement le cœur de Paul, parce qu'il partage le cœur de Jésus. Il a été éprouvé, testé, comme un métal dans le feu. Autrement dit, le ministère révèle nos limites en nous mettant dans le feu. Il révèle notre impatience, notre susceptibilité, notre fatigue, notre besoin de contrôle, notre difficulté à pardonner. Et le miroir du ministère ne ment pas. Est-ce que vous savez, dans les magasins, tout est étudié pour vous faire acheter. La lumière, la musique, les odeurs. Même les miroirs, dans certaines cabines d'essayage, sont bien éclairés, ils vous font paraître plus grand, plus mince, plus élégant. On se regarde dedans, oui, je suis caché. Puis là, on rentre à la maison, on se regarde dans le miroir de la maison, et la vérité éclate. Le ministère, c'est le miroir de la maison. Il ne triche pas, il ne flatte pas, il ne maquille rien. Le ministère est un miroir de vérité. Il révèle ce que les autres ne voient pas, et même ce que nous-mêmes ne voulons pas voir. L'effort, c'est fermer les yeux, les désolés. Il y a autre chose que révèle le ministère, c'est notre compassion. Verset 26. Car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris, sa maladie. Là, il parle d'Épaphrodite. Paul dit qu'il est angoissé. C'est un mot très fort. C'est le même mot qui est utilisé pour parler de Jésus à Gethsémani. Pourquoi Épaphrodite était angoissé? Parce qu'il savait que les autres, les Philippiens, étaient inquiets pour lui, parce qu'il était malade. C'est presque paradoxal. Il n'est pas angoissé pour lui-même, il est angoissé parce que les autres sont inquiets pour lui. Et cette réaction en vivant. Voilà ce que le ministère révèle, un cœur qui porte les autres. Et parfois il révèle aussi l'inverse, un cœur centré sur lui-même. Le miroir du ministère va révéler aussi notre dépendance. Paul, dans notre passage, répète plusieurs fois « J'espère dans le Seigneur », verset 19. « J'ai cette confiance dans le Seigneur », verset 24. Paul ne met pas sa confiance dans ses plans, dans ses stratégies, dans ses collaborateurs. Il dépend de Dieu. Le ministère va révéler si nous dépendons vraiment du Seigneur ou si nous dépendons de nous-mêmes. Et souvent, Dieu utilise les relations compliquées pour nous montrer. Parce que rien ne révèle notre cœur comme des relations. Un chrétien isolé ne pourra jamais devenir mature. Les relations sont le laboratoire où Dieu teste notre dépendance. Dans notre passage, on voit que Paul dépend de Timothée. Timothée dépend de Paul. Épaphrodite dépend des Philippiens. Les Philippiens dépendent d'Épaphrodite. Et tous dépendent du Seigneur. Ce réseau, c'est le moyen que Dieu utilise façonner le cœur. Sans Timothée, Paul apprend latin. Sans Paul, Timothée apprend l'obéissance. Sans Épaphrodite, l'Église apprend la compassion. Et sans l'Église, Épaphrodite apprend l'humilité. Dieu utilise les relations pour nous apprendre ce qui nous serait impossible d'apprendre seul. Et ce que Dieu révèle ainsi, ce n'est pour bien comprendre, ce n'est jamais pour nous écraser, mais pour nous restaurer. Si le miroir du ministère n'est pas là pour nous flatter, il n'est pas là non plus pour nous condamner. Quand Dieu révèle quelque chose, ce n'est jamais pour nous humilier, c'est pour nous transformer, nous sanctifier. Timothée a été éprouvé, il est devenu un serviteur fidèle. Épaphrodite a été brisé, il est devenu un modèle de sacrifice. Paul a été contesté, il est devenu un modèle de persévérance. Gardons à l'esprit que servir le Seigneur, c'est une grâce. Et parfois, cette grâce peut coûter. On l'a vu au premier chapitre. Ils étaient faits la grâce de croire en Dieu, mais aussi de souffrir pour lui. Le service n'est pas toujours confortable, mais par contre, il est toujours précieux. Alors oui, le ministère est un trésor. Et ce trésor agit comme un miroir. Il révèle nos motivations. Il expose nos limites. Il met en lumière notre compassion. Il teste notre dépendance. Maintenant que Paul nous a montré ça, il va nous conduire dans une troisième réalité. Le ministère est un appel. Parce que ce que Dieu révèle, il appelle aussi à le transformer. Et ce qu'il transforme, il en veut. Le ministère est un appel. Ce n'est pas une option, pas un hobby spirituel. Ce n'est pas une activité parmi d'autres. C'est un appel. Premièrement, c'est un appel qui vient de Dieu. Le mot grec, dans le Nouveau Testament, utilisé pour appel, désigne une convocation divine. Une invitation qui engage toute notre vie. Un appel qui ne vient pas de nous, mais de Dieu. Le ministère ne commence jamais par une bonne idée. Il commence toujours par une initiative divine. Paul n'a pas choisi Timothée au hasard. C'est Dieu qui l'a appelé. Acte 16, en abrégé, Timothée. Paul se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée. Les frères de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Paul voulut l'amener avec lui. Paul n'a pas fait de casting. Il n'a pas choisi Timothée, mais recrute un assistant. Il discernait un appel qui était déjà présent. C'était un disciple déjà formé, reconnu par l'Église. Il portait du fruit, il était recommandé par les frères. Paul ne crée pas l'appel, il ne fait que le reconnaître. Et pour Épaphrodite, c'est la même chose. Paul ne l'a pas envoyé par commodité, c'est Dieu qui l'a envoyé. Verset 30. Car c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été pris de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Épaphrodite n'est pas envoyé par Paul, il est envoyé pour Christ. Paul n'est qu'un intermédiaire, l'initiative vient de Dieu. Et c'est fondamental, on le dit souvent ici, on ne comble pas les trous. Le ministère, ce n'est pas d'abord une réponse à un besoin, c'est une réponse à un appel. Deuxièmement, l'appel, ce passage nous rappelle aussi que l'appel engage toute la personne. Verset 22. Vous savez qu'il a été mis à l'épreuve et qu'il a servi avec moi comme un fils avec son père. Le mot servir, c'est douler. Vous savez sûrement, ça veut dire servir comme un esclave. Autrement dit, Timothée n'a pas fait du ministère une activité annexe. Il en a fait une vocation, une orientation de vie. Il n'a pas servi Paul quand c'était pratique. Il n'a pas servi l'Église quand il avait du temps. Il a servi comme un fils sert son père. Avec loyauté, avec affection, avec constance. Le ministère, ce n'est pas un passe-temps, c'est une réponse. Troisièmement, l'appel demande de la disponibilité. Verset 23, Paul dit « J'espère vous l'envoyer bientôt. » Timothée est prêt, il est disponible, on peut le déranger. Il n'est pas attaché à son confort, il n'est pas prisonnier de ses projets personnels, il est disponible pour Dieu. Et c'est souvent là que le ministère se joue. Non dans nos compétences, mais dans notre disponibilité. Dieu n'utilise pas d'abord les plus doués, mais les plus disponibles. Et je vous pose cette question. Le don que vous avez reçu. Est-ce que vous avez tous un don? Est-ce que vous avez le niveau que vous avez un? Est-ce que vous lui laissez une place pour s'exprimer? Quatrièmement, l'appel demande du courage. Regardez Épaphrodite. Il a risqué sa vie pour l'œuvre de Christ. Le mot risquer signifie mettre sa vie dans la balance. S'exposer volontairement, prendre un risque pour Christ. Épaphrodite n'a pas cherché le danger, il n'a pas voulu impressionner non plus, il a simplement obéi à l'appel. Et cet appel, pour lui, c'est l'appel de son fils. Paul dit alors, honorez vos paysans. Autrement dit, l'appel de Dieu. Il ne conduit pas toujours où c'est sûr, mais par contre toujours là où c'est juste. Ce passage nous montre encore que l'appel demande de la persévérance. J'ai cette confiance dans le Seigneur que moi-même aussi je viens de bientôt. Paul est en prison, c'est pas ce qu'il attend, il n'est pas l'issue. Il continue, il persévère, il ne perd pas la foi. Parce que l'appel ne dépend pas des circonstances, il dépend de Dieu. Les circonstances peuvent changer, l'appel lui reste. J'ai déjà livré une caserne de pompiers, au moment où ils répondaient à une alerte. C'était l'été, ils sont tous arrivés à fond. L'allée faisait 100 mètres, et sur ces 100 mètres, je me suis fait livrer par 20 pompiers. Ils sont sortis de leur véhicule en maillot de bain et claquettes, ils devinent où ils étaient. Quand l'alarme sonne, Le pompier se lève. Ne dis pas, pas maintenant. Je suis pas motivé. Rappelez plus tard. Il répond parce que c'est son appel. Le ministère fonctionne de la même manière. Ce n'est pas une question de préférence, c'est une question d'obéissance. Et enfin, l'appel n'est pas une contrainte, mais une grâce. Et c'est essentiel de le rappeler. L'appel n'est pas un fardeau, pas une punition, pas une pression, c'est une grâce. Cette logique de grâce n'a rien de nouveau. C'est exactement ce que Dieu a fait avec Josué. Moïse ne l'a pas choisi par hasard. Dieu lui-même a dit « Prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et impose-lui les mains. » Ce n'est pas Josué qui a donné cette place. Il n'a pas mérité son rôle. Dieu a posé son esprit sur lui. C'est la grâce. Et c'est exactement ce que Paul voit en Timothée, et en Épaphrodite. Dieu les a choisis, Dieu les a appelés, Dieu les a envoyés. L'appel est toujours un privilège à recevoir. Alors oui, le ministère est un trésor. Oui, il agit comme un miroir. Mais il est aussi et nécessairement un appel. Un appel qui engage toute la personne, un appel qui demande de la disponibilité, qui demande du courage, de la persévérance. Et maintenant que Paul nous a montré cet appel, il va nous montrer une dernière réalité. Le ministère est un modèle. Parce que l'appel ne reste jamais théorique. Il prend forme, il se voit, il s'incarne dans des vies concrètes. Et Paul ne nous donne pas une définition abstraite du ministère. Il nous montre des personnes, des visages, des parcours de vie. Timothée et Épaphrodite. Le ministère se transmet par l'exemple. Paul ne dit pas « regardez la bonne méthode », il dit « regardez ses amis ». Et ce principe traverse toute l'écriture, là aussi. La foi biblique ne se transmet pas seulement par des discours, mais par les vies. L'Église ne se construit pas uniquement par l'enseignement, mais par l'imitation. C'est pourquoi Paul dit ailleurs, 1 Corinthiens 11, « Soyez mes imitateurs », 1 Corinthiens 4, « Imitez-moi », 1 Thessaloniciens 1, « Vous êtes devenus imitateurs du Seigneur ». Chez Paul, l'imitation n'est jamais superficielle, comme copier un style ou une méthode. Il s'agit d'une imitation de caractère, d'orientation de vie. Paul ne dit pas que Timothée copie son style pastoral, il dit « Je n'ai personne qui partage sincèrement mes sentiments ». Le mot « sentiment » renvoie à la vie intérieure, à l'âme. Autrement dit, Timothée ne copie pas Paul, il partage son cœur. Il ne reproduit pas une méthode, il ne joue pas un rôle, il ne porte pas non plus un masque spirituel. Il aime ce que Paul aime, il se soucie de ce qu'il peut occuper Paul. Tout simplement, ses priorités sont celles de Jésus. C'est pourquoi Paul nous dit dans le passage, « Il a servi avec moi, comme un fils avec son père. » Timothée est un modèle, non parce qu'il est spectaculaire, mais parce qu'il est vrai. Le ministère, ce n'est pas d'abord une compétence à apprendre, mais un cœur à refléter. Et si Timothée incarne le cœur de Christ, Épaphrodite, quant à lui, incarne le don de soi. Verset 25. « J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pour voir mes besoins. » Notez le vocabulaire. Mon frère, mon compagnon d'œuvre, mon compagnon de combat. Et il ajoute, il a risqué sa vie pour Christ. Je l'ai dit tout à l'heure, Épaphrodite a mis sa vie dans la balance. Il s'est exposé volontairement. Il n'a pas cherché la reconnaissance, ni la sécurité. Il a simplement obéi. Et Paul dit aux Philippiens, honorez de tels hommes. Une autre façon de dire, voilà ce que Dieu honore, et voilà ce que nous sommes appelés à imiter. Il ne visait pas la gloire, il visait Christ. Et c'est cette direction, plus que sa perfection, qui fait de lui un modèle. Et il faut le dire, être un modèle ne signifie pas être parfait. Timothée n'est pas parfait, Épaphrodite n'est pas invincible. Paul lui-même, ailleurs, reconnaît ses faiblesses, mais il marche dans la bonne direction. Ils pointent tous vers Christ. Le modèle chrétien ne dit pas « regardez-moi », mais « regardez Christ au travers de nous ». Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs, fait resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu. Mes parents avaient une vieille lampe, quand il était jeune. Elle avait pris des coups, le plastique était fendu, le couvercle tenait avec du scotch. Elle n'était vraiment pas belle, loin d'être parfaite. Mais quand on appuie sur le bouton, on éclaire. Et c'est même, je veux dire ça, au travers des fissures que la lumière passait de nous. Le ministère, c'est ça. Nous sommes des lampes fragiles, cabossées, limitées. Mais Christ est la lumière. Et quand sa lumière passe au travers de nous, même nos fissures deviennent limitées. Timothée est une lampe cabossée. Épaphrodite est une lampe cabossée. Paul est une lampe cabossée. Et Dieu veut se servir de nous, comme Dieu, avec nos fissures et nos bouts de scotch. Et justement, c'est souvent à travers ses faiblesses que Dieu laisse un héritage. Parce qu'un modèle, ce n'est pas quelqu'un de parfait, c'est quelqu'un qui transmet. Paul ne s'est pas contenté de servir. Il a formé, il a transmis, il a investi dans des hommes qui, à leur tour, deviendraient des modèles. Timothée va devenir un pasteur fidèle. Épaphrodite deviendra un exemple pour son église. Les Philippiens, eux, vont apprendre à honorer les serviteurs de Christ. Le ministère est un modèle parce qu'il laisse une trace. Le vrai ministère ne se mesure pas à ce qu'on a accompli, mais à ce qu'on a transmis. Alors oui, le ministère est un trésor. Il agit comme un miroir et il est un appel. Mais il est aussi et nécessairement un modèle. Un modèle de cœur, de sacrifice, de fidélité, en un mot, un modèle de Christ. Et maintenant que Paul nous a montré ces modèles, il nous invite à regarder nos vies. En parcourant ce passage, j'espère, nous avons vu bien plus qu'un simple rapport de mission. Nous avons vu le cœur du ministère. Nous avons vu ce que Dieu fait dans la vie de ceux qui servent, ce qu'il veut faire dans la nôtre. Au milieu, nous avons vu que le ministère est un trésor. Je rappelle. Un trésor confié par Dieu. Un trésor précieux, fragile, porté dans des vases d'argile. Un trésor qui n'est pas seulement l'évangile, mais aussi les personnes que Dieu place sur notre route. Puis nous avons vu que le ministère est un miroir. Il va révéler nos motivations. Il va exposer nos limites. Un miroir qui met en lumière notre compassion, ou l'inverse, notre manque de compassion. Un miroir qui ne flatte pas, mais qui sanctifie. Ensuite, nous avons vu que le ministère est un appel. Un appel qui vient de Dieu, qui engage toute la personne, qui demande disponibilité, courage et persévérance. Cet appel n'est pas un fardeau, mais une grâce. Et enfin, le ministère est un modèle, incarné dans des vies imparfaites, mais fidèles. Un modèle qui ne cherche pas à briller, mais à refléter Christ. Un modèle qui se transmet par l'exemple, par la fidélité et par le don de Dieu. Et maintenant, la question n'est pas seulement qu'avons-nous compris, mais que faisons-nous de ce que Dieu nous a montré? Parce que ce texte nous invite pas seulement à admirer Épaphrodite et Timothée, il nous invite à laisser Dieu faire en nous ce qu'il a fait en nous. Peut-être que ce matin, Dieu te rappelle que ce que tu portes n'est pas un fardeau, mais un trésor. Peut-être qu'il te montre au travers du miroir du ministère, une motivation à purifier. Peut-être qu'il a fait renaître en toi un appel que tu avais mis de côté. Et c'est la beauté de l'évangile. Dieu n'appelle pas des gens comme ça. Il appelle des vases d'argile. Il ne cherche pas des héros spirituels. Il cherche des serviteurs fidèles. Je prie. Ce passage, qu'on peut lire parfois, malheureusement, trop rapidement, change notre façon de voir le service. Et que ce soit notre prière à tous. Seigneur, fais de moi un Timothée. Fais de moi un Épaphrodite. Fais de moi un serviteur fidèle. Fais fais de moi un vase d'argile rempli de contre-vous.